Radio Plus sur 104.3, la radio de votre région. Vous êtes à l'écoute de l'émission L'Heure Flamande, préparée par Michel et Marie-Jo.
Et aujourd'hui, nous allons évoquer la ville de Saint-Omer, Sint-Omars en néerlandais. Certains sont peut-être un peu étonnés que nous évoquions cette ville du Pas-de-Calais et nous dirons, eh bien, oui, Saint-Omer, eh bien, a bien été en Flandre. Certes, aujourd'hui, les référents ne sont plus celles du XVIIIe siècle, hein, puisqu'aujourd'hui, on parle de département. Saint-Omer est donc dans le Pas-de-Calais, certes, mais il n'y a pas non plus de département nommé Flandre. Alors nous allons donc ici essayer de vous faire découvrir quelques pages de la très riche histoire de cette cité. Saint-Omer d'ailleurs a été longtemps certes surnommée la Belle Endormie, mais depuis elle s'est réveillée depuis quelque temps et d'ailleurs tous les visiteurs de cette belle cité de Saint-Omer peuvent le constater chaque week-end par la fréquentation très de plus en plus nombreuse de touristes.
Ons weekendhotel lag discreet, verscholen in duinen aan zee. De tijd vloog er te vlug voorbij, als schot in Frankrijk leefden wij. We kwamen slechts in half pension, maar zo verwend door la patron. We kregen het ontbijt op bed. En s'avonds was er balmuzet, want de patron, ja de patron, hij speelde accordeon, heel alleen voor ons twee. Hij speelde accordeon en we draaiden maar mee. Hij speelde accordeon. Festijn, en we draaiden maar mee. Ons weekendhotel in die tijd was niet duur, we waren niet rijk. Maar luxe verlangde ik niet, als ik maar heel dicht bij je sliep. We droomden op het stille strand, een meeuw pikte brood uit je hand. Het leven leek zo irreëel. We bouwden menig luchtkasteel. En de patron, ja de patron, hij speelde accordeon, heel alleen voor ons twee. Hij speelde accordeon en we draaiden maar mee. Hij speelde festijn en we draaiden maar mee. Ons klein hotel dat is voorbij, het ligt er nu zo eenzaam bij. Alsof het met mij treurt om jou, omdat ik nog steeds van je hou. Ik kwam er nog eens, maar alleen. Het was heimwee dat mij ertoe dreef. En de patron, heel discreet, vroeg niet naar jou, want hij begreep. Ja de patron, hij speelde accordeon, heel alleen voor ons twee. Hij speelde accordeon en we draaiden maar mee.
Comme vous l'avez sans doute deviné, il est ici question d'un joueur d'accordéon, une chanson interprétée par Luc Steno. Vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande sur Radio Plus 104.3.
Et donc aujourd'hui, nous évoquons donc la belle endormie, longtemps nommée ainsi. Il s'agit donc de Saint-Omer. Et pourtant, Dieu sait si son histoire a été très riche et très mouvementée. Alors, Saint-Omer, c'est tout d'abord un très gros bourg, bien situé. Il est situé donc à une trentaine de kilomètres de la mer à l'heure d'aujourd'hui. Mais ce ne fut pas toujours le cas. En ce temps-là, la Flandre maritime, telle qu'on la connaît aujourd'hui, eh bien, elle était tout simplement sous l'eau. Il faut savoir aussi que Saint-Omer n'est qu'à une vingtaine de mètres au-dessus du niveau de la mer. Et en fait, elle est aussi située au bord du fleuve de l'Aa, ce qui lui permet d'avoir une situation particulièrement stratégique importante, donc au bord d'un fleuve, puisque à l'époque, les axes de circulation étaient surtout maritimes et fluviales, donc très importants. C'est donc au 7e siècle que la cité va commencer à prendre de l'importance, avec en particulier l'arrivée de moines audomars, accompagnés en particulier de Saint-Bertin. Ces moines dépendent de l'abbaye de Thérouanne, qui est située non loin de cette Omer d'ailleurs, et qui à l'époque était une abbaye très puissante et très importante sur tout le secteur. Thérouanne qui d'ailleurs devait être rasé plus tard par Charles Quint. Et donc la ville avait complètement disparu. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose. Saint-Bertin construire, fonder une abbaye bénédictine qui est d'abord dédiée d'ailleurs à Saint-Martin. Elle ne prendra le nom de Saint-Bertin que par la suite, bien sûr, à la disparition de ce moine fondateur. Ainsi, Saint-Omer devient un très haut lieu de la religion, mais aussi se devient très vite un centre commercial important et industriel de première importance, du fait déjà de sa situation géographique qui attire bien sûr de plus en plus de personnes du fait de la prospérité de la cité. Cette cité, donc, petit à petit, va évidemment, du fait de l'envasement du delta de l'Aa, s'éloigne évidemment un peu de la mer. Les bateaux, bon, certes, c'est pas les super tankers que l'on peut connaître aujourd'hui et qu'on peut voir dans les ports d'Anvers ou voire même de Dunkerque, mais ces bateaux étaient bien sûr adaptés à la navigation de l'époque. Mais le comte de Flandre de l'époque ne veut pas que Saint-Omer périclite. Et donc il fait creuser un canal, il va canaliser le fleuve de l'Aa de façon à ce que Saint-Omer puisse toujours avoir un accès à la mer. Et d'ailleurs c'est aussi la création de cet avant-port que sera Gravelines, qui va servir même un petit peu de barrage, de protection de la ville de Saint-Omer, car évidemment si Saint-Omer bénéficie de cette situation stratégique importante, évidemment ça attire quelques convoitises, et en particulier les fameux vikings qui longent la côte de la mer du Nord et vont venir ravager plusieurs fois la ville de Saint-Omer durant le 7e et le 8e siècle. Mais à chaque fois, la ville va renaître et le comte de Flandre décide de construire des remparts afin de mieux protéger la ville.
Slapen. Kom, laat die handen zwaaien, we feesten heel de nacht. mag morgen weer mijn brave ik. Aha, aha. In het weekend maak ik in mijn hoofd een klik. Aha, aha. De tijd tikt zo snel, te snel voorbij. Ik laat me gaan en voel me vrij. Lekker stoom of laten, de klok niet in de gaten. En met de handen zwaaien, we feesten heel de nacht. Lekker stoom of laten, we denken niet aan slapen. Kom, laat die handen zwaaien, we feesten heel de nacht. Oh, oh. De handen zwaaien, we feesten heel de nacht. Lekker stom of laten, we denken niet aan slapen. Kom, laat die handen zwaaien, we feesten heel de nacht. Lekker stom of laten, de klok niet in de gaten. En met de handen zwaaien, we feesten heel de nacht. Lekker stom of laten, we denken niet aan slapen. Kom, laat die handen zwaaien, we feesten heel de nacht.
Laureline, vous interprétez, nous avons fait la fête toute la nuit, peu festen heel de nacht. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus 104.3.
Et donc nous évoquons donc la ville de Saint-Omer, Saint-Omer qui très vite va montrer un grand dynamisme, à un tel point c'est que donc sa population très industrieuse, eh bien le comte de Flandre va octroyer des droits communaux à la ville dès le XIe siècle et qui va d'ailleurs être transformé quelques décennies plus tard en véritable charte communale. Cela veut dire que eh bien les bourgeois de la ville gèrent leurs affaires, édite les règles commerciales. On peut dire que cette liberté d'entreprendre va, comme on dirait aujourd'hui, booster l'activité commerciale et tout particulièrement l'industrie drapière de la cité. Avec les travaux pour gérer, bien sûr, tout le secteur des marais, car Saint-Omer est entouré de marais, eh bien, ils vont aussi créer tout un réseau de watergangs et ainsi, disons, faire bénéficier de riches terres qui seront consacrées en particulier aux terres maraîchères, car il faut naturellement nourrir cette population qui est de plus en plus nombreuse et qui vient arriver donc pour eh bien la richesse même de la ville attire bien sûr les populations et l'industrie drapière connaît une véritable expansion très très importante et d'ailleurs à un tel point c'est que au XIVe siècle eh bien Saint-Omer compte pas moins de 40 000 habitants. C'est dire l'importance de la cité. À titre d'exemple, la ville de Lille à l'époque n'avait pas beaucoup plus d'habitants et aujourd'hui eh bien malheureusement on peut se poser des questions mais ça fera l'objet d'une autre émission naturellement. Et aujourd'hui eh bien Saint-Omer en 2016 eh bien on relevait seulement 15 000 habitants. Alors que s'est-il passé? Eh bien voilà, ça sera le sujet peut-être d'une prochaine émission. En tout cas, en attendant, c'est que Saint-Omer à l'époque eh bien, c'est une ville flamande très très prospère. On y parle d'ailleurs le néerlandais. On est un peu sur la frontière linguistique picarde et flamande. Et jusqu'aux les années 1600, eh bien, les actes de justice, les actes commerciaux sont rédigés en néerlandais de l'époque. Et d'ailleurs, encore dans les marais audomarois, des vieilles familles. Bon, certes, malheureusement, ça disparaît petit à petit, mais je me souviens que mon père, qui était de Berg, avait des amis qui habitaient donc dans les maraîchers de Saint-Omer, et ils échangeaient, bien sûr, dans leur langue, le Vlaamsch. Et il ne s'agit pas, contrairement à ce que j'ai parfois pu entendre, d'immigrés belges qui se sont venus s'installer dans le marais de Marois pour y travailler.
Aus der Stadt,
vaak in mijn gedachten. Al zeg ik niet hoe je heet, zijn die onzichtbare krachten waardoor ik jou niet vergeet. Jij bent het licht in het duister, denkend aan jou maakt me rein. De liefde heeft zo haar geheimen, als ik naar het hemelrijk kijk. Als sterren stralen gaan en zijn binden, wat mijn gevoel mij verraadt. Straks in het eenzame donker, bij weer een heldere nacht, dan voel ik die duizenden vonken die jij in mijn hart hebt gebracht. Als sterren stralen gaan en zijn
j'écoute Radio Plus sur 104.3 et vous êtes à l'écoute de l'heure flamande.
Et aujourd'hui, donc, nous évoquons Saint-Omer. Saint-Omer, donc, qui, en l'an 1200, donc, jusqu'à l'an 1200, appartenait au comté de Flandre. Puis, on assiste à la création du comté d'Artois. Évidemment, Saint-Omer, passe dans sous la bannière artésienne, et ça ne plaît pas, comme on peut l'imaginer, au comte de Flandre, qui lui va chercher bien sûr à récupérer par les armes cette cité prospère, mais peine perdue puisqu'il ne va pas gagner la bataille. Et donc Saint-Omer va rester dans l'Artois, qu'on appelle l'Artois flamagante, car à l'époque, eh bien, l'usage de parler flamand était dominant par rapport au parler picard. Néanmoins, l'Artois appartient donc à ces 17 provinces, donc n'est pas, bien sûr, n'appartient pas encore au royaume de France. Saint-Omer sera aussi pendant plus de 200 ans le siège du diocèse, qui va donc se trouver à Saint-Omer pendant plus de 200 ans, jusque 1790, où là, le siège du diocèse va passer donc à la ville d'Arras. Saint-Omer, riche cité des Pays-Bas espagnols, attire bien sûr la convoitise du roi de France. Déjà par le passé, il avait bien essayé plusieurs tentatives de récupérer cette riche ville. Certes, la Flandre était vassale du roi de France, mais néanmoins, le comté de Flandre était suffisamment puissant pour éviter de, bien sûr, disons, obéir à son suzerain. Mais évidemment, le roi de France continue à toujours à chercher à conquérir ces belles villes du nord. Et c'est ainsi que les troupes françaises, en mars 1677, vont commencer un siège de la ville. Les troupes françaises sont commandées par le frère du roi, Louis XIV, donc Philippe d'Orléans. La France allait rentrer en guerre avec l'Espagne. Et entre-temps, bien sûr, le royaume des Provinces Unies avait été créé sur le dos des Espagnols, puisqu'il y avait séparation des deux royaumes. Les Pays-Bas espagnols, qui étaient plutôt catholiques, tandis que le Nord était de la religion réformée. Et évidemment, les Hollandais étaient toujours hostiles au royaume d'Espagne, mais... Là, les Hollandais, eh bien, ont un principe, c'est que ils ne veulent pas du Royaume de France comme voisin, et donc, curieusement, il y a un renversement total des alliances, puisque les Hollandais vont venir au secours des troupes espagnoles, et c'est ainsi qu'ils vont se retrouver en face des troupes du roi sur ce champ de bataille en bas de Cassel. Alors, cette bataille a plusieurs noms, on l'appelle la bataille de la Peine, on dit aussi la bataille de Saint-Omer, la bataille de Cassel. Elle a lieu le 11 avril 1677, donc, et si vous voulez bien sûr connaître tous les détails de cette bataille, je ne peux que vous inviter à aller visiter le musée de la bataille à Norpen, donc tout près de Cassel, et qui vous permettra vraiment de connaître les dispositions, enfin tous les faits dans le détail de cette bataille, et surtout l'enjeu que ça va donner, puisque certes l'Espagne, on peut difficilement comprendre que tout d'un coup les Hollandais bien sûr ont changé les alliances, puisque c'était leur ennemi l'Espagne, et qu'ils deviennent l'allié. Mais il faut savoir aussi que l'Espagne avait plusieurs fronts. Elle devait en particulier faire face à un conflit particulièrement difficile avec le Portugal, et donc le secours des troupes hollandaises lui faisait plutôt du bien. Mais malheureusement, l'issue de la bataille, eh bien, on le connaît, c'est que les troupes du roi de France vont gagner cette bataille, et depuis, eh bien, une partie de la Flandre est passée dans le royaume de France. Donc je vous invite à aller visiter ce musée donc de Norpen, c'est une belle sortie pendant vos vacances, pour découvrir toute cette histoire qui a une importance majeure pour comprendre l'histoire de notre région.
Dag. Ik word telkens verliefd op je klank en je kleur, op je magische beat. Wat een prachtige dag, op elke hoek van de straat is er ritme, muziek, vriendschap en romantiek. Dat is waar het leven om gaat. Wat een prachtige dag in de stad van mijn hart. Hier voel ik me zo goed, een dag waar ik van hou. Ik hou van jou, ik hou van jou. Aan een prachtige dag, als je 's ochtends ontwaakt, zie ik je levenslust, hoe je weer plannen maakt voor een prachtige dag. De kinderen op het plein spelen lustig en blij. Elk uur sluit voorbij, zolang het van jou mag. Wat een prachtige dag in de stad van mijn hart. Hier voel ik me zo goed. Een dag waar ik van hou. Hou van jou, hou van jou. Wat een prachtige dag. Dag. Jouw avond die me verleidt, ik kan jou niet weerstaan. Maak me op, ik moet gaan voor een heerlijke tijd. Wat een prachtige dag in de stad van mijn hart. Hier voel ik me zo goed. Een dag waar ik van hou. Prachtige dag, morgen zoveel te doen. Ik ben klaar voor je nacht. Kom, ik geef je een zoen.
John Terra, vous interprétez Une journée magnifique dans la ville de mon cœur. Vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande, émission préparée par Michel et Marie-Jo sur Radio Plus.
Et une belle ville, bien sûr, à visiter aussi. C'est donc Saint-Omer, dite par le passé la belle endormie, mais qui depuis, eh bien, s'est réveillée. Et la preuve, c'est le nombre de touristes que l'on peut y rencontrer, qui viennent des Pays-Bas d'ailleurs, d'Angleterre, d'Allemagne, et bien sûr de notre région. Donc la belle endormie s'est réveillée et on peut accéder, bien sûr, à Saint-Omer, soit en train, soit via l'autoroute A26. Il y a bien sûr aussi les chemins de traverse, les petites départementales qu'ils ont et qui garde un certain charme. Alors si vous avez pris le train, eh bien vous allez donc arriver dans une gare qui a été construite en 1902, qui est assez imposante. Elle a été construite par la Compagnie des Chemins de Fer du Nord, à l'époque où la SNCF n'existait pas. C'est un bâtiment important, dont surtout la partie centrale qui, elle, a été restaurée dans les années 45-50, car, comme toute gare pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était bien sûr la cible de nombreux bombardements, et donc la gare, elle avait souffert lors de bombardements. La ville, elle reste aussi entourée, elle était entourée de remparts, il en reste une belle partie qui permet d'ailleurs de bien visualiser comment la ville était défendue, en particulier par les travaux de Vauban, qui lui s'était bien sûr déjà basé, il avait restauré une partie des remparts existants, mais bien sûr il les a renforcés avec les stratégies militaires de l'époque. En bas d'ailleurs d'une partie de ces remparts, il y a un très joli parc où on peut se promener, et en particulier quand il fait chaud, et bien c'est rafraîchissant de se balader dans tout ce cadre de verdure. Il y a bien sûr les ruines de l'abbaye Saint-Bertin qui sont aujourd'hui inscrites comme monument historique. Hein. C'est une église qui datait donc du XIVe siècle, qui a été régulièrement agrandie. Elle était de style gothique. D'après ce qu'on voit aujourd'hui des ruines, on peut imaginer facilement la majesté qu'a dû avoir cette abbaye de bénédictins. Malheureusement, aujourd'hui, il reste des ruines. Et pourquoi, en fait, elle n'a pas été victime de bombardements ni de faits de guerre, mais simplement, lors de la Révolution française, les moines ont été chassés. L'abbaye a été déclarée bien nationale et, évidemment, une partie a été purement vendues comme pierres de taille, et puis d'ailleurs de nombreuses pierres ont servi à construire l'hôtel de ville de la cité, d'ailleurs que beaucoup de ses habitants ont surnommé le moulin à café à cause de sa forme qui rappelle ces fameux moulins à moudre utilisés nos grands-mères pour bien sûr affiner le café. Et puis il y a la cathédrale Notre-Dame. Alors la cathédrale Notre-Dame qui a fait d'ailleurs l'objet d'une restauration il y a quelques années, elle est absolument magnifique. Au départ, c'était une modeste chapelle qui petit à petit au cours des siècles s'est agrandie. Et je vous rappelle donc Saint-Omer était le siège du diocèse, hein. C'était donc aussi une ville non seulement industrielle, commerciale, mais aussi où il y avait une grande concentration d'ordre religieux, et donc c'était aussi un centre religieux très très important.
Want hoe kan ik weten dat zij ook denkt aan mij? En in ieder liedje hoor ik haar naam. Achter elke venster zie ik haar staan. Al zijn het nu dromen, eens zal de dag komen dat zij ook droomt aan mij. Mooi is het leven als het je in verkeer. Je kent geen zorgen meer, zolang je droomt.
Vous interprétez Moïse Leven, la vie est belle. Vous êtes à l'écoute de Radio Plus sur 104.3.
Et nous visitons donc une ville qui mérite largement le détour, c'est Saint-Omer. Et Saint-Omer, donc un petit joyau, c'est la cathédrale Notre-Dame qui a fait l'objet donc d'une restauration il n'y a pas très longtemps. Elle est absolument magnifique. C'était au départ eh bien une simple petite chapelle qui parce qu'il y avait l'abbaye Saint-Bertin qui était toute puissante qui était mais la prospérité de la ville a aussi fait que c'était un grand centre de décision pour l'Église catholique et en effet Saint-Omer était donc le siège du diocèse pendant plus de 200 ans puisque il n'a été transféré que en 1790 au bénéfice de la ville d'Arras la cathédrale Notre-Dame elle renferme un véritable petit trésor. Alors on peut pas tous les citer évidemment, il y a en particulier l'horloge astronomique qui est particulièrement imposante et qui date de 1558. Il y a aussi un tableau superbe de Rubens. C'est comme un peintre de grande renommée dans tous les Pays-Bas. Et donc cette église aussi a été l'objet bien sûr d'un certain dynamisme au moment de la contre-réforme. Je vous rappelle que à l'époque Saint-Omer faisait partie des Pays-Bas espagnols. Et Rubens était un peintre renommé donc à cette époque-là. Et il y a un tableau absolument magnifique, très impressionnant. C'est une descente de croix, vraiment superbe. Autre monument qui est particulièrement impressionnant à l'intérieur de cette église, c'est les grandes orgues. Vraiment un buffet impressionnant qui date du XVIIIe siècle. Alors moi, ce qui aussi m'intrigue beaucoup, et c'est là un petit peu le côté à la fois religieux, païen, enfin il y a des choses assez étranges, et d'ailleurs ceux qui pourront m'aider à découvrir un peu plus le mystère de ce saint, Saint Erchembaud, qui n'hésite pas à écrire ici à la radio, Radio Plus, donc rue Coé, 62 138 à Douvrin, pour m'apporter quelques éléments. Donc en effet, il y a une tombe à l'intérieur de cette église qui est une sorte de un caveau en pierre où repose donc le saint Erchembaud. C'est un saint qui est décédé au 8e siècle et encore aujourd'hui, les gens ont une foi très importante, même les gens qui pratiquent pas, récitent une prière qu'on va vous écouter. Alors évidemment, on y croit, on n'y croit pas, mais je tenais à vous faire écouter cette prière qui montre encore une certaine foi, à la fois un mélange de, selon moi, de foi catholique et aussi une foi ancienne, antérieure au christianisme, selon moi.
Alors cette prière, le texte est toujours mis à la disposition des fidèles à côté de la chasse de Saint Erchembaud. C'est une prière pour demander l'aide de Saint Erchembaud, surnommé le Saint qui fait marcher. Seigneur notre Dieu, toi qui mets en marche l'univers, toi à qui nous devons la vie, le mouvement et l'être, écoute notre prière, nous la confions à Saint Erchembaud dont le corps repose ici. Tu nous as envoyé ton fils Jésus pour nous remettre en marche vers toi, et il a dit un jour, « Lève-toi et marche. Donne-nous d'abord de vaincre la paralysie de notre cœur et de marcher vers toi, pour une foi vivante, éclairée et confiante. Donne-nous aussi à nos corps de se mouvoir sans problème et de surmonter toute difficulté. Avec Saint Erchembaud qui intercède pour nous, nous te prions pour tous les petits-enfants, immobiles, handicapés ou retardés, qui ont ici déposé ces petites chaussures. Nous te prions aussi pour ceux et celles qui connaissent la déprime, que Saint Erchembaud nous aide à les entourer et à les aider pour qu'ils se remettent en marche par nous, qu'ils leur tendent la main. » Et c'est vrai que sur la chasse en pierre sont disposées des quantités de petites chaussures, des chaussons, aussi bien beaucoup, beaucoup de chaussures d'enfants, pour les aider à marcher, les gens qui intercèdent par la prière, mais aussi les chaussures d'adultes quelquefois.
Oui, en effet, puisque en fait, c'est un petit peu ce côté un mélange de religions, définitif, parce que le fait de déposer des objets, en particulier, comme vient de dire Marie-Jo, des petites chaussures d'enfant, c'est aussi une sorte de sacrifice, comme faisaient les anciennes religions avant le christianisme. C'est faire intercéder auprès des pouvoirs de façon à ce que les enfants qui battent ne marchent pas assez rapidement selon les parents ou qu'ils ont des difficultés diverses, eh bien, on fait appel donc à ce saint Erkenbode, dont je suis assez curieux de connaître eh bien sa vie. J'ai pas réussi à trouver vraiment des choses intéressantes à ce propos, et donc surtout, eh bien, n'hésitez pas à ceux qui ont des éléments à écrire donc à Radio Plus. Émission L'Heure Flamande, rue Coé, ça s'écrit C-A-U-W-E-T, donc 62-138 à Douvrin. Je vous en remercie vivement d'avance.
Interpréter Zones et on Strand, le soleil, la mer et la plage. Vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande sur Radio Plus 104.3.
Et nous évoquons donc les visites de Saint-Omer, et nous sommes donc dans la fameuse cathédrale donc de Notre-Dame, et outre donc bien sûr l'horloge astronomique. L'horloge astronomique à voir, donc il date de 1558, le tableau de Rubens, la descente de croix, le tombeau donc de Saint Erkenbode, très intrigant. Il y a aussi une statue assez importante, c'est le grand dieu de Thérouanne, qui date du XIIIe siècle, qui vient de l'ancienne abbaye de Thérouanne, qui a été donc rasée par les troupes de Charles Quint. Et donc on voit le Christ assis sur le trône, accompagné donc d'un côté de la Vierge Marie et de l'autre de Saint Jean. Quand on sort de cette cathédrale, on peut être assez impressionné par le calme qui règne dans ce quartier. C'est vraiment un quartier très apaisant, très reposant. Et quand on déambule donc dans les rues de Saint-Omer, on peut remarquer une constance dans la couleur des briques un peu jaunâtres, des briques de sable, qui est assez caractéristique donc de cette plaine de Flandre maritime. Et donc c'est une architecture typique bien sûr de nos grands Pays-Bas. Un musée bien sûr qu'il ne faut pas rater, c'est le musée Sandelin, qui est absolument magnifique, dans un vieux bâtiment très bien entretenu, et qui est d'ailleurs, ce musée est consacré à la fois à l'histoire de la ville, mais aussi il sert de musée des beaux-arts. Si vous aimez aussi bien sûr la ville, il y a les bords du canal de l'Aa, qui est absolument magnifique, un quartier très très vivant avec ses maisons basses où il y avait par le passé de nombreux mariniers d'ailleurs qui y habitaient. C'est un quartier très très dynamique où il y a une fête de l'eau cet été. Et ça, il faut absolument aller voir. On décore des chars avec des fleurs. Il y en a au moins une vingtaine de chars qui défile, hein, c'est un véritable défilé de chars sur l'eau, et qui est vraiment magnifique. D'ailleurs, ça rencontre un succès très très important. Donc, je ne peux que vous inviter à visiter donc cette belle ville de Saint-Omer. Et il y a plein de petits restaurants sympas. On peut pas les nommer ici, bien sûr, au risque, bien sûr, on peut pas faire de la publicité. Mais aujourd'hui, eh bien, Saint-Omer, ce n'est plus la ville qui a eu cette réputation de la belle endormie. Elle s'est réveillée, et malgré les crises qui ont frappé son industrie, en particulier, bien sûr, la cristallerie d'Arc, hein, qui a subi déjà de nombreux plans de licenciement, de restructuration, etc. Mais néanmoins, eh bien, Saint-Omer a une position plutôt sympathique, et je pense que vu le nombre de touristes qui viennent la visiter chaque année, qui viennent d'Angleterre, des Pays-Bas, d'Allemagne et bien sûr de France, et ben je pense que Saint-Omer va retrouver le dynamisme qui était le sien dans les siècles passés. L'émission, eh bien, touche déjà à sa fin. Eh bien, je vous souhaite une excellente semaine sur les ondes de Radio Plus. À la semaine prochaine.
Mijn lievelingsmuziek wil ik altijd om me heen. Dus vraag ik nu aan Ment, toelaat me niet alleen. Ik wil je horen op de fiets of in mijn cabrio. Zou het geen idee zijn, Ment op de radio. Zo kan ik de top 10 en elk zondagsinterview toch volgen op recepties en op elke barbecue. Zelfs hoog in de Ardennen, in een bungalow. Dat zou toch moeten lukken met Ment op de radio.
Wij willen Ment op de radio. Dat is voor ons het droomscenario. Wil ik horen in mijn bed, 's ochtends in de douche en 's nachts op het toilet. Boven op het dak of achter mijn bureau, dat kan alleen maar lukken met Ment op de radio.
Wij willen Ment op de radio. Dat is voor ons het droomscenario. En als is al dagenlang op reis, met slechts een foto als bewijs dat hij een thuis had en een vrouw. Op ieder overvol station kiest hij een nieuwe horizon en zet zich schrap tegen de kou. Ooit was zijn land niet grauw maar groen, er was alleen een hoogseizoen, hij leefde in een paradijs. Maar nu een onder oorlog zucht, is hij dat vaderland ontvlucht, met slechts een foto als bewijs. Hij is al wekenlang op reis, met slechts een foto als bewijs dat hij een oorsprong heeft gehad. Hij kijkt er elke avond naar en haalt een vinger langs haar haar, al raakt het beeld vergeeld en mat. De oorlog zit onder zijn huid, als hij zijn ogen even sluit, hoort hij de echo's van gekruis. In elke hartslag zat gevaar,